Kiosque Magazine.
Jeudi 27 août, un jeudi de la rentrée. Si vous avez pu traverser un pont à Montréal aujourd'hui, vous avez pu le constater. C'est aussi un jeudi où il nous faut parler d'économie et d'emploi théoriquement, mais c'est surtout l'économie cette semaine qui va tout arracher. Au micro pour vous servir au cours de la prochaine heure, Éric de Belval et moi-même, François Brodeur. Éric, la façon de ne pas parler de Chine cette semaine?
Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, François. Et la Chine cale, les pays émergents coulent. Hein. Les avertissements se multiplient sur l'imminence d'une crise économique financière mondiale, liée notamment à l'énorme quantité de liquidités monétaires accumulées dans un grand nombre de pays. Alors les égoïsmes des États ou l'absence de volonté de ceux-ci pour raisonner et pour prévoir ensemble les objectifs et la gouvernance du bien commun, le bien commun c'est une notion inexistante, hein, purement théorique, sont de plus en plus évidents. Où va se lever le vent de la tempête? Sans doute en Chine. Et pour rester dans la finance, j'ai trouvé un article très très intéressant écrit par un prix Nobel. Moi j'essaye toujours d'écouter les prix Nobel d'économie. Et les marchés financiers semblent être ou vouloir être, outre un système très en pointe technologiquement, aussi un exemple d'analyse et de décision rationnelle. Et ne riez pas s'il vous plaît. On sait qu'il existe aussi un côté pari, mais même cette notion semble flirter quand même, figurez-vous, avec la logique. Alors je vous disais, un prix Nobel s'est penché sur cette question, il va nous ramener brutalement vers beaucoup plus d'irrationnel. Et puis pour commencer, en ce qui me concerne, le pétrole, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, depuis l'éclatement de la crise du gaz de schiste en 2010, il a été largement question du potentiel gazier du sud de la province, essentiellement entre Montréal et Québec. Mais la formation géologique qui renfermerait ces gisements pourrait également contenir du pétrole de schiste.
Et pour ma part, d'abord, je préfère les prix Nobel de littérature, ils sont beaucoup plus intéressants. Mais je ne vais pas vous en parler parce qu'il y en a très peu qui parlent d'économie dans les faits, sauf peut-être Michel Houellebecq. Il n'y a pas de prix Nobel encore, Michel Houellebecq?
Non. Okay, même, juste un prix Goncourt.
C'est pas réglé, cette affaire-là. C'est un dossier à suivre. Alors, de mon côté, donc, il y a 10 ans maintenant, éclatait le scandale Norbourg. On se rappelle tous de Vincent Lacroix qui est devenu de héros à zéro, mais en une microseconde. On pourrait penser que 10 ans après, les investisseurs sont maintenant beaucoup mieux protégés contre des escrocs de cette sorte. On va voir grâce à Stéphanie Gramont qu'il n'en est rien. La chute des prix des matières premières. Tiens, ça aussi, ça m'occupe. Et encore là, on se ramène à la Chine. Tiens, je fais toutes mes présentations cette semaine en ramenant tout à la Chine. Ça, c'est un effort, une figure de style. Voilà. Et finalement, ce parasite de la bourse, le Traders, comment ça fonctionne dans sa tête? C'est quoi sa journée idéale? Et pourquoi, quand tout le monde panique, lui, il est fébrilé? Tout ça, ça commence dans quelques instants. L'Iran se remet à en vendre sur le marché. Les Américains en produisent, en veux-tu, en voilà. On découvre de nouvelles nappes tous les jours et sur fond de la Chine qui n'achète moins, qui en achète beaucoup moins. Alors évidemment, on parle de pétrole. Pétrole qui a atteint, mais un fond vertigineux cette semaine. Il est descendu sous les 40 $ le baril.
Alors, oui, ça devrait se stabiliser dans ces eaux-là, mais enfin, rien n'est sûr. Alors, dans l'autre sens, on va parler de potentiel. Un potentiel qui reste à démontrer, mais le sous-sol des basses terres du Saint-Laurent pourrait contenir, tenez-vous bien, plus de 2 milliards de barils de pétrole de schiste. C'est ce qui se dégage d'une synthèse scientifique réalisée à la demande du gouvernement Couillard dans le cadre de l'évaluation environnementale stratégique de la filière des énergies fossiles. Donc, ça a intéressé Alexandre Schild dans Le Devoir. Et il nous a fait un article qu'il a appelé « Du pétrole de schiste près de Québec » avec un beau point d'interrogation que j'imagine rouge.
Moi, j'imaginerais juste la bombe en train de danser autour d'un puits de pétrole et le spectacle n'est pas réjouissant.
Ouais. Bon, vous n'irez pas jusqu'à le pousser quand même.
L'allumer peut-être.
Ouais, d'accord. Co-auteur du rapport « Géologie et potentiel en hydrocarbures des bassins sédimentaires du sud du Québec », le professeur Michel Malot de l'INRS estime qu'il existe bel et bien un potentiel de découverte de pétrole dans la formation de l'Utica. Le chiffre cité dans cette étude remise au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, il y a de cela quelques mois, évoque d'ailleurs un potentiel de 1,8 milliard de barils. Mais cette synthèse, consultée par Le Devoir, se base aussi sur une étude publiée par la Commission géologique du Canada l'an dernier. Cette dernière conclut que les ressources potentielles estimées de pétrole varient entre 0,78 et 5,24 milliards de barils, avec une moyenne de 2,3 milliards. Aucun gisement n'a encore été découvert à ce jour, mais les zones propices à la présence de pétrole sont tout de même connues, si l'on se fie aux données scientifiques portant sur le shale de l'Utica. Spécialiste des bassins sédimentaires du Québec, M. Malot explique ainsi que la présence de gaz ou de pétrole dans le sous-sol dépend du degré de maturité thermique, entre guillemets. Passé un certain stade, on se trouve en présence de gaz. Mais dans la partie nord-est de la formation de l'Utica, soit grosso modo sur la rive nord du Saint-Laurent entre Portneuf et Beaupré, l'ingénieur géologue souligne qu'on se trouve dans la fenêtre à huile. Il y a un potentiel que du pétrole soit encore présent dans la roche, fait valoir Michel Malot. Si j'étais une compagnie et que je recherchais du pétrole, j'irais explorer vers le nord-est, ajoute-t-il. L'étude produite par la CGC en 2014, intitulée « Caractéristiques géologiques et évaluation des ressources pétrolières du Shell d'Utica, Québec-Canada », évoque elle aussi le même secteur du sud de la province. Des formations compilées par Le Devoir et présentant les 985 forages réalisés au Québec indique d'ailleurs que des travaux menés dans cette région depuis 50 ans ont permis de découvrir des indices de pétrole à Donnacona, Portneuf, Neuville et Québec. Un forage avec fracturation mené en 2009 par l'entreprise Junex à Saint-Augustin-de-Desmaures pour rechercher un gisement de gaz de schiste, a même permis de produire une quarantaine de barils de pétrole. Une autre zone s'étendant de part et d'autre du Saint-Laurent, entre la pointe est du lac Saint-Pierre et l'île d'Orléans, pourrait renfermer des condensats qui peuvent être dans certains cas considérés comme du pétrole léger. Des forages menés dans le passé ont permis de déceler des indices de pétrole dans ces zones de formation de l'Utica, notamment à Batiscan et l'Épiphanie. Michel Malot rappelle en outre que les analyses scientifiques des chercheurs de l'INRS et de la CGC qui ont permis d'identifier ce potentiel pétrolier ont été réalisées à partir d'une méthode reconnue, c'est entre guillemets méthode reconnue. Il insiste cependant pour dire que plusieurs données manquent pour bien évaluer le potentiel pétrolier et gazier. Avant la crise du gaz de schiste de 2010, il y a eu quelques forages et nous étions sur le point de savoir si le bassin serait productif. Mais tout a été stoppé, donc nous n'avons pas encore beaucoup de données pour nous permettre de chiffrer un éventuel potentiel. Nous étions encore trop tôt dans la phase exploratoire. Le shell de l'Utica qu'on retrouve ici est toutefois assez semblable à la formation géologique qu'on retrouve en Ohio, où l'on exploite déjà du pétrole et du gaz de schiste. C'est l'équivalent, illustre Michel Malot. On voit qu'il y a une bonne production de gaz et de pétrole. Ça pourrait être la même chose au Québec, mais il faudrait pour cela aller plus loin dans l'exploration pour confirmer le potentiel. C'est l'entreprise Junex qui détient les permis d'exploration, couvrant les zones les plus propices à la découverte du pétrole de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent. Appelé à commenter l'intérêt de Junex pour d'éventuels projets d'exploration, Dave Pépin, vice-président finance et affaires corporatives, a simplement indiqué qu'au plan géologique, il s'agit certainement d'un potentiel intéressant. Junex dit toutefois vouloir concentrer ses efforts de recherche pétrolière sur le projet Galt, situé en Gaspésie, où l'entreprise dit avoir obtenu d'excellents débits de production de pétrole sans avoir besoin de fracturer la roche. Ça me rappelle le nuage de Tchernobyl en France qui passait puis qui s'arrêtait à la frontière entre l'Allemagne extraordinaire, le nuage de Tchernobyl. Mm-hmm. Il doit y avoir peut-être un nuage de gaz de schiste comme ça qui fait ce qu'on lui dit de faire. Du côté de l'association pétrolière et gazière, ce qui t'ennuie avec les trous, par contre, c'est qu'ils ne se déplacent pas, hein, ils restent là. Ouais. Et les fractures aussi. Pardon. Du côté de l'association pétrolière et gazière du Québec, on a dit de ne pas avoir pris connaissance de l'étude menée par des chercheurs de l'INRS. On encourage cependant la production locale d'hydrocarbures. Normalement, l'évaluation environnementale stratégique de la filière des énergies fossiles doit être complétée cet automne. Un projet de loi sur les hydrocarbures doit suivre. Les études environnementales lancées par les libéraux de Philippe Couillard sur cette filière indiquent clairement que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Même le gaz de schiste est évoqué.
Hein, quoi, ils font du sirop d'arabe à Québec? Allez, je nous ramène en arrière tous. Vous vous rappelez évidemment de Vincent Lacroix, cet homme qui menait grand train. On le voyait dans les clubs les plus louches de Montréal, dans sa loge au Forum, en fait au Centre Bell. On le voyait partout. C'était l'homme à succès. Et on a découvert finalement qu'il se finançait même les épargnes de ses épargnants. Bref, un déficit monstrueux, une fraude terrible. 10 ans plus tard, on est en droit de penser que les choses ont changé et que c'est devenu impossible de frauder comme ça, ou à tout le moins de ne pas indemniser les victimes de cette fraude. Eh bien, Stéphanie Gramont s'est penchée sur le sujet dans la presse du 26 août. Ça nous donne un texte intitulé « Encore de gros trous dans la couverture des épargnants ». Oh, j'ai vendu le punch. Alors, disons que le scandale Norbourg éclatait. 130 millions envolés en fumée. Plus de 9 000 investisseurs sur la paille. Une crise de confiance majeure dans le grand public. Le scandale a aussi révélé les failles du fonds d'indemnisation des services financiers qui n'a dédommagé que 10 % des victimes. 10 ans plus tard, devinez ce qui a changé dans ce fonds? Rien. Oh, il y a eu plusieurs vagues de consultations, plusieurs rapports remis au gouvernement, mais rien ne s'est concrétisé. Que se passe-t-il? Sommes-nous les rois du taponnage au Québec ou alors n'avons-nous aucune réelle volonté d'améliorer la protection des épargnants? Discrètement, au printemps dernier, le ministère des Finances a lancé une nouvelle consultation, une heure avant que l'Assemblée nationale prenne congé, forçant les intervenants à concocter leur mémoire en plein été. Québec met pourtant la table à des changements considérables dans son document de consultation. Par exemple, on parle de dépecer la Chambre de la sécurité financière qui joue un peu le rôle d'un ordre professionnel pour plus de 30 000 représentants de l'industrie financière. Ce n'est pas rien, je reviendrai plus loin. À lire le document, on constate que l'harmonisation des règles avec celles du Canada et l'allègement du fardeau réglementaire pour les entreprises est au cœur des préoccupations de Québec. Mais pour la protection des investisseurs, c'est moins clair. D'accord, Québec envisage une bonification du fonds d'indemnisation. Il est question d'indemniser les victimes d'un conseiller dûment certifié, même s'il a commis une fraude dans un domaine qui n'est pas relié à son permis, par exemple le placement au lieu de l'assurance. Voilà une très bonne nouvelle, car il s'agit du principal motif de refus d'indemnisation en ce moment. Dans un monde de plus en plus complexe et multidisciplinaire, on ne peut pas demander aux investisseurs de démêler quel représentant a le droit de vendre quel produit. Mais il faudrait aller plus loin, car le fonds comporte bien d'autres lacunes. Pour vous donner une idée, le fonds a reçu des réclamations de 8,5 millions de dollars en 2014-2015, mais n'a versé que 453 000 dollars. C'est presque 20 fois moins. Ça fait beaucoup de victimes qui restent sur leur faim. Ne devrait-on pas élargir la couverture du fonds aux fautes lourdes? Il est vrai que les cas de fraude font couler beaucoup d'encre, mais les cas de grossière négligence causent beaucoup plus de pertes. Or, les fonds d'assurance qui couvrent les erreurs des professionnels refusent de plus en plus de payer dans les cas de fautes lourdes, arguant qu'il s'agit d'agissements intentionnels. Comme la ligne est bien mince entre la fraude et la faute lourde, l'investisseur se retrouve alors coincé entre deux fonds qui ne veulent pas l'aider, ni l'un ni l'autre. Apparemment, Québec n'a pas l'intention de colmater cette brèche, pas plus qu'il ne semble vouloir étendre la couverture du fonds au gestionnaire de fonds, ce qui aurait permis d'indemniser les victimes de Norbourg. Pas question non plus de venir en aide aux épargnants qui ont confié leurs économies à un malfaiteur sans aucun permis, comme Earl Jones. Ces cas représentent environ le tiers des réclamations. Ceci dit, il vaut probablement mieux que le fonds ne couvre pas les épargnants qui n'ont pas pris de précautions de base. Une protection tous azimuts risquerait de devenir un bar ouvert pour la fraude. Ici, la solution se trouve davantage du côté de la prévention. Et à ce chapitre, l'Autorité des marchés financiers a fait un bon bout de chemin. Depuis 2010, l'Autorité scrute le web pour détecter les petites annonces et les sites web douteux. Plus de 400 dossiers ont été traités en 5 ans. Cette approche permet de mettre le public en garde, d'agir avant que le fraudeur ne cause trop de dégâts. Mais revenons à la Chambre de la sécurité financière. Québec songe à lui retirer l'encadrement des courtiers en épargne collective pour confier le mandat à l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, comme c'est le cas partout ailleurs au Canada. Les investisseurs lésés pourraient alors être couverts par le fonds de l'association, mais ce fonds couvre seulement en cas d'insolvabilité d'une firme, pas en cas de fraude. Et les démarches pour être dédommagées sont plus lourdes. Pour le consommateur, ce serait donc un recul. Bien sûr, cette harmonisation pan-canadienne plairait aux grandes firmes qui font affaire d'un océan à l'autre. En démantelant la Chambre de la sécurité financière, on ferait une croix sur le principe de la multidisciplinarité qui était l'objectif même de la création de la Chambre il y a plus de 15 ans. Comme la Chambre de la sécurité financière supervise les représentants de différents domaines, les fonds communs, l'assurance, plans de bourse, etc., elle agit comme un guichet unique pour le consommateur. Un gros avantage, surtout que de nombreux représentants portent plusieurs chapeaux. S'il faut alléger le fardeau réglementaire, on devrait plutôt peaufiner le modèle québécois qui est en avance sur le reste du pays en tablant sur l'expertise chez nous. Donc, on le voit, oui, on va changer des choses, mais finalement, pour alléger la réglementation, faciliter la vie, non pas des investisseurs, mais bien celle des entreprises qui recueillent leurs investissements. Et en bout de piste, c'est la sécurité de l'investisseur qui est remise en question. Inquiétant.
drift into the night. Came storming to your eyes. My horse had worked the fields too long. My bear had lost his innate calm. It's true enough for not at peace. But peace is never what it seems. Our love is not the light it was. When I walk inside the dark, I'm gone. Why we look for where it went?
Qui se demandait comment on pourrait ne pas aller là, effectivement. Et c'est un choix musical de Mathieu Tessier, qui, exceptionnellement, cette semaine, assure la mise en onde de cette émission. Alors, on souhaite bonne chance à Mathieu. On lui rappelle que dans cette émission, ce sont les animateurs qui sont les rois et qu'on écoute les animateurs. Voilà, c'est dit. Non, appuie pas sur le bouton. Ceci dit, à moins de vivre quelque part en banlieue de Jupiter, vous n'avez pas pu le rater. Crise boursière cette semaine, le marché chinois qui dégringole malgré tout ce qui a été fait au cours des derniers mois. Enfin, la bulle boursière explose en Chine et ça rebondit, mais partout dans le monde. Bon, ouais. Ça s'est calmé un peu sur les marchés nord-américains notamment. Quid donc?
Oui, enfin, Toronto n'y a pas échappé, hein, et dans ce pays merveilleux où le système bancaire est peut-être considéré comme l'un des meilleurs du monde, en tout cas l'un des moins susceptibles être entamé par une bulle ou par une crise, mm-hmm. Effectivement...
L'un des plus ennuyants, c'est ce qu'on dit généralement.
Oui, ben, c'est peut-être un critère, finalement, de solidité. En tout cas, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, les marchés financiers sont fébriles. Hein. Ils ne se sont pas remis de la dévaluation surprise du yuan. Si vous vous en souvenez, c'était le 11 août dernier. Et elle a suivi la publication de mauvais chiffres sur la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On guette le moment où la réserve fédérale américaine recommencera à relever ses taux. Est-ce qu'elle a une grande marge de manœuvre? Personnellement, je ne le crois pas. Mais elle ne peut pas faire autre chose. En tout cas, ce serait la première fois qu'elle le ferait depuis 2006. Est-ce que ça nous sauvera? Rien n'est moins sûr. En tout cas, Claire Guélot, qui est un journaliste du Monde, a écrit un article sur cette question qui a été repris par Le Devoir et qui s'appelle « La Chine cale, les pays émergents coulent ». C'est gai tout ça. D'ailleurs, parmi le fait que les pays émergents coulent, je rappellerai cette crise qui n'arrête pas d'entamer la position du Brésil et à laquelle il faut aussi s'intéresser. Bon, alors, lisons cet article. Ça ne va pas nous faire une journée joyeuse. Mais bon, il faut bien y aller. La publication mercredi des minutes de la Fed, le compte-rendu de sa dernière réunion monétaire fin juillet, n'a pas apporté de réponse. Dans cet environnement plein d'incertitudes, toutes les bourses mondiales ont plongé. Le ralentissement de la croissance chinoise, probablement plus proche des 5 à 6 % que des 6,8 % retenus par le Fonds monétaire international en juillet, est l'une des données qui ont conduit la Fed à maintenir son soutien à l'économie américaine. Il n'y a là rien d'étonnant. La Chine est à l'origine de plus du tiers de la croissance mondiale depuis 10 ans. Et c'est, voilà, ça c'est, je trouve, une photo fantastique, parce que vous n'avez qu'à vous représenter ça. Vous avez un pays sur la planète qui est à l'origine du plus du tiers de la croissance mondiale. Imaginez que ça ralentisse violemment. Voilà, là vous avez une bonne idée de ce que c'est qu'un vrai coup de freinage. Si vous êtes la voiture derrière, vous voyez à peu près ce qui peut vous arriver. Ne représente-t-elle pas, entre autres, 50% de la demande de charbon et de nickel, 40% de celle du cuivre, 15% des exportations de l'Asie du Sud-Est? Il faut encore compléter avec une métaphore malheureuse qui serait le chargement du véhicule qui vous précède. Et vous, dans votre petite voiture, avec juste des freins, un disque à l'avant. Le recul de ces exportations et de sa production industrielle a des effets en chaîne qui affectent la planète entière, et notamment les pays émergents. Pourquoi ? Parce que c'est les producteurs de matières premières qui souffrent déjà de l'atonie de la demande mondiale hors États-Unis. L'indice mesurant la performance des bourses émergentes, ça s'appelle le MSCI, a cédé 23% depuis septembre 2014. En Chine, les indices des places de Shanghai et de Shenzhen ont dévissé respectivement de 6,1 et 6,6% mardi. Après s'être repris mercredi, ils ont de nouveau clôturé en baisse jeudi puis plongé vendredi. Les investisseurs doutent de la capacité des autorités chinoises à ramener durablement le calme sur des marchés volatiles. J'ai toujours adoré ce mot de volatilité qui a l'air de ressembler comme ça au petit voltage d'un oiseau entre les branches d'une forêt où les arbres sont merveilleusement plantés. En réalité, c'est les troncs qui bougent et les racines qui vont sortir du sol. Les investisseurs se font une dernière frousse entre les incertitudes relatives à la Chine, l'affaiblissement des devises et la perspective d'un relèvement des taux américains. Ils rapatrient leurs fonds et attendent que la poussière retombe, a déclaré à Bloomberg Jonathan Ravelas de BDO Unibank, un établissement basé à Manille. Bon. En fait, c'est un bon point d'observation, je pense, Manille. De fait, entre juin 2014 et juillet 2015, les sorties de capitaux des pays émergents se sont élevées hors emprunt bancaire à 1 000 milliards de dollars. C'est le double du montant constaté dans la foulée de la crise financière de 2008 et de la récession de 2009, a fait valoir le Financial Times.
Et ça revient à dire que les Chinois n'investissent plus en Chine. Ils font sortir leur argent de Chine dans la mesure du possible.
Absolument. Et ça veut donc dire que l'épargne n'alimente pas l'économie nationale. Mais on a le système purement financier qui consiste à regarder où ça rapporte le plus, sans aucun souci pour le développement économique du pays dans lequel on habite. La grande différence avec cette période est, Clément, qu'on cette fois... si continuer à prêter aux émergents, analyse Alicia Garcia Herrero, chef du bureau Asie-Pacifique de Natixis à Hong Kong. Et là, on retombe sur le problème de la masse de liquidité qui est injectée dans l'économie et qui, ce qu'on a appelé le quantitative easing, et qui a été une solution certes utile, mais qui a ses limites. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus, on en a trop injecté. Mercredi. Le Vietnam, probablement soucieux de ne pas perdre en compétitivité par rapport à la Chine, a dévalué sa devise, le dong, pour la troisième fois depuis le début de l'année. Le Kazakhstan a fait de même avec le tengé, déprécié de 4,4%. D'autres monnaies d'Asie ont dégringolé, à l'image du ringgit malais qui a affiché un plus bas de 17 ans face au dollar. Évidemment, personne ne s'intéresse à ces monnaies. Qui a des dongs chez lui dans son placard, à part quelques touristes qui les ont oubliés en partant. Mais,
ou ressortissants.
Ouais. Simplement, si on les additionne comme un beau collier qui, autour du cou, va finir par vous étrangler, eh bien, c'est un indice comme un autre pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Faut-il y voir la seule conséquence de la dévaluation chinoise ? Rien n'est moins sûr. Pour Gaël Blanchard, stratégiste à la Société Générale, les dépréciations des devises asiatiques face au billet vert ont commencé fin 2011. Elles se sont amplifiées ces derniers mois avec l'appréciation du dollar dans la perspective d'un relèvement des taux. Natixis note que la roupie indonésienne, encore un, voilà, non pas la roupie de Sansonnet, mais bon, c'est un peu pareil, a perdu 62,7%, pardon pour l'Indonésie, j'aurais jamais dû dire une chose pareille, je ne le ferai plus, face au dollar américain depuis son haut du 29 juillet 2012 et seulement 1,7% depuis la dépréciation du yuan. La Chine n'est pas le premier pays à s'engager dans une dévaluation compétitive pour relancer ses exportations et stimuler la croissance. En fait, c'est un vieux remède. Mais vous pouvez faire ça si les autres ne le font pas. Parce que si tout le monde se met à dévaluer, c'est à peu près comme si vous n'avez rien fait. Ou plus exactement, c'est une façon de s'enrichir, de s'appauvrir collectivement par une simple décision. Bon. Vive l'économie. La mesure était attendue. C'est la brutalité de son annonce et son timing qui ont surpris. Observe Gaël Blanchard. Comme tous les économistes interrogés mercredi par Le Monde, elle s'attend à ce que la dépréciation monétaire du yuan se poursuive, car elle vient compléter un arsenal de mesures fiscales, budgétaires et monétaires déjà prises par Pékin pour soutenir l'économie. On doit d'ailleurs dire que les mesures qui ont été prises par la Chine sur le plan économique sont parfaitement rationnelles et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que quand vous êtes sur un bateau qui coule et que vous prenez un seau pour vider de l'eau, bah, vous pouvez vous demander si ça va suffire. Bien. D'après Natixis, les réserves chinoises en dollars ont fondu de 345 milliards entre juin 2014 et juin 2015 et de 42,5 milliards en juillet. Le feuilleton chinois de l'été a fait l'effet d'une douche froide sur les investisseurs en attirant leur attention sur l'exposition des pays d'Asie au ralentissement de l'empire du milieu et plus généralement sur les vulnérabilités des émergents à la peine depuis 5 ans. Leur croissance devrait se limiter à 4,2% en 2015, selon le FMI, loin des progressions spectaculaires du début des années 2000. La fin du boom des matières premières, la chute des prix du pétrole, le durcissement des conditions de financement extérieur, l'atterrissage chinois, l'insuffisance des infrastructures et les tensions politiques ou géopolitiques expliquent ce regain de faiblesse. Bienvenue aux nouveau-nés de ce matin, là, dans toutes les cliniques du Canada, parce que vraiment, ce qui les attend, ce n'est pas terrible.
Je ne peux pas m'empêcher de penser que si Mao pouvait se retourner dans sa tombe, il en serait au cycle d'essorage. On se donne rendez-vous donc dans quelques minutes pour la deuxième moitié de cette émission.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure, et dans cette demi-heure, il sera question de matières premières, de marchés financiers et de traders. J'ai déjà hâte de vous parler des traders, mais je vais commencer par vous parler des matières premières et des euphémismes des marchés. Voyez-vous, quand tout va mal dans un marché, on vous parle de cycle, ce qui est une manière de vous dire « ça va remonter, mettez votre argent ici, s'il vous plaît, c'est le temps d'acheter ». Alors, pour les matières premières, c'est le cas. Et comme j'ai dit que je parlerais de Chine à chaque fois que je présentais un texte cette semaine, eh bien, le lien est hyper facile. Si l'industrie chinoise, qui est l'atelier du monde, ne produit moins, eh bien, on achète moins de matières premières et tous les les pays producteurs de matières premières, c'est le cas du Canada, de l'Australie, d'une bonne partie des pays émergents, eh bien, leur économie en souffre énormément. Alors, le titre du texte, « La véritable anomalie n'est pas la faiblesse des prix, mais plutôt les sommets qu'ils ont atteints », disent les analystes. Non, ça, c'était le sous-titre. En fait, le titre, c'est « La chute des prix annonce un nouveau cycle ». C'est un texte non signé de l'agence France Presse qui a été publié dans Le Devoir du 27 août. Donc, demande en baisse, production en hausse, ralentissement de la croissance chinoise à l'horizon, les prix des matières premières ont chuté ces derniers mois à leur plus bas niveau depuis 2009, signe pour les spécialistes qu'elles pourraient entrer dans un nouveau cycle. Le prix du pétrole a atteint cette semaine son niveau le plus bas depuis 6 ans et demi, alors que le prix des autres matières premières tombait en même temps que les marchés d'actions. Le cuivre, coté sur le marché des métaux à Londres, est passé sous les 5 000 $ américains la tonne pour la première fois depuis 2009. L'aluminium est aussi à son plus bas niveau depuis 6 ans. Historiquement, ce mouvement de baisse est à rapprocher de la crise financière asiatique de 1997-98, lorsque la demande des économies émergentes s'est effondrée, expliquent les experts de la banque UBS. Les prix plus bas des matières premières font penser à un ralentissement de la demande des économies émergentes qui sont celles qui consomment le plus de matières premières, énergie et matériaux, ajoute-t-il. L'histoire se répète, confirme Jeff Currie, analyste chez Goldman Sachs. nous sommes en train de voir un cycle similaire à celui dont nous avons été témoins au milieu des années 80, moment de forte chute des matières premières. Ces deux cycles ont été marqués par un fort approvisionnement, si bien que la demande est ralentie, oui, elle ne s'était pas contractée. Aujourd'hui, la demande en pétrole continue à augmenter. La chute des derniers mois est provoquée par l'abondance de l'offre, explique-t-il. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord et le WTI américain sont ainsi revenus au niveau d'avant la crise financière de 2008, au niveau de autour de 45 $ le baril pour le premier et 40 pour le second. En fait, on était à 38 et des poussières hier à un moment donné. Ces deux produits étaient tombés sous les 40 $ fin 2008, en pleine tourmente des marchés financiers. Pour autant, ce n'est pas le prix bas qui est une anomalie, mais plutôt les sommets vers lesquels les prix des matières premières avaient grimpé ces dernières années. Le pétrole avait ainsi atteint en 2008 plus de 140 $ américains, un prix tout à fait inédit. La baisse constatée depuis juin 2014 s'apparente à un retour à la normale d'avant 2007, alors que la production de pétrole reste très forte. Le retour imminent du pétrole iranien sur le marché et le pétrole de schiste américain devraient contribuer à maintenir des prix bas. La demande de cuivre, un matériau indispensable dans tous les secteurs de l'industrie, a continué à augmenter de 6 % sur un an. La demande est certes en repli par rapport au niveau des 10 dernières années, mais ne s'est pas effondrée. Ainsi, la baisse des prix est principalement provoquée par le ralentissement de la demande en Chine qui avait connu ces 10 dernières années une explosion sans précédent. Les grandes compagnies minières ont lourdement investi ces dernières années, creusant des mines et forant des puits pour répondre à la forte demande chinoise. Le pays absorbe en effet environ la moitié de la production mondiale de métaux industriels. Or, ces entreprises ont choisi de réduire leurs coûts dernièrement, mais tout en maintenant leur production, ce qui contribue à l'abondance de l'offre et maintient des prix bas face à une demande maussade. Si cette faiblesse des cours n'est pas une bonne nouvelle pour les grandes entreprises minières et pétrolières cotées sur les grandes places financières, elle est plutôt positive pour les économies américaines et européennes. Les salaires réels dans les grands pays industrialisés n'ont pas augmenté aussi vite que les prix des matières premières. Donc, un prix plus bas des matériaux signifie que le pouvoir d'achat va augmenter, conclut Martin Kunk, professeur associé à l'unité de Warwick. Et j'ajoute ici que ce que je retiens de ce texte-là, c'est que ce qui est anormal, ce n'est pas que les prix soient très bas actuellement. Ce qui est vraiment anormal, c'est la hauteur qu'ils avaient atteint précédemment. Et je dis ça parce qu'au Québec, on a construit tout un scénario. En fait, on a tracé des plans sur la comète. En se fiant sur le prix des matières premières alors qu'elles atteignaient des hauts astronomiques. Et ce plan-là, c'est tout le plan Nord, notamment, qui est fondé sur un boom minier qui n'était pas appelé à durer parce que les prix étaient juste temporaires. C'était comme clair qu'on était à la tête d'un cycle et c'était surévalué. Voilà, je l'ai dit, ça m'a fait énormément de bien. Merci. À penser que notre argent, notre économie, nos emplois, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on vend, c'est entre des mains fiables, que ça obéit à des règles stables, que tout ça, finalement, est d'une sécurité à toute épreuve. Et puis, bang, survient la Chine et où on découvre que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, que finalement, c'est très imparfait.
Oui, alors le corollaire de ce que vous venez de dire, cher François, c'est l'idée selon laquelle les ordinateurs pourraient remplacer l'intervention humaine dans toutes les décisions.
Devraient.
Ouais, ouais. Enfin, moi, je préfère dire pourrait, parce que devrait nous met déjà dans un système de contraintes auquel, je crois, vous n'êtes pas prêt d'adhérer, et moi non plus. Mais les marchés financiers devenant parfaits, ça, c'est une idée parfaitement erronée. Et ça a intéressé Robert Shiller. Alors, si vous en souvenez, il a eu le prix Nobel d'économie en 2013. Et il a publié un article dans La Tribune, qui n'est pas celle de Sherbrooke, je le rappelle, avant que vous ne le fassiez, qui nous incite à, moi, je trouve, à la fois un petit peu de prudence et puis un petit peu d'optimisme, ce qui fait du bien, parce que je sais que dans votre prochain sujet, là, on va y aller assez fort et à juste titre sur... des systèmes particulièrement erratiques, disons, pour employer un mot neutre. Mais bon, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Ça s'appelle Ça s'appelle « Non, les marchés financiers ne sont pas prêts d'être parfaits ». Dans leur nouveau livre « The Incredible Shrinking Alpha », Larry Swidrow et Andrew Birkin décrivent un environnement d'investissement peuplé d'analyses de plus en plus sophistiquées qui se basent sur les big data, des ordinateurs puissants et la recherche scientifique. Avec toute cette concurrence, les obstacles à la réalisation de l'alpha, des rendements supérieurs à un niveau de référence ajusté pour le risque, et donc une mesure de succès utile pour choisir entre plusieurs investissements individuels, sont en plus élevés. Bon, c'est un peu cafouilleux, mais on aura compris qu'il s'agit d'une mécanique pour que des outils vous donnent la possibilité de réfléchir à votre place sur la meilleure façon de gagner de l'argent.
Ce qui fait que tout le monde est égal au départ comme à l'arrivée.
Bonne chance. D'accord. Tout le monde est libre, mais pas égal. Hein, c'est, voilà. Bon. Cette conclusion soulève une question clé. L'alpha est-il voué à s'annuler pour chaque stratégie d'investissement imaginable? Plus fondamentalement, nous approchons-nous du jour où, grâce à tant de gens intelligents et d'ordinateurs encore plus intelligents, les marchés financiers deviendront effectivement parfaits et où nous pourrons simplement nous asseoir, détendus, et faire l'hypothèse que tous les actifs sont évalués correctement? Ce scénario imaginé pourrait être appelé la singularité financière, analogue à l'hypothèse de la singularité technologique à venir lorsque les ordinateurs remplaceront l'intelligence humaine. La singularité financière implique qu'il serait préférable de laisser toutes les décisions d'investissement à un programme d'ordinateur parce que les experts ont compris grâce à leurs algorithmes ce qui détermine les résultats du marché et l'ont réduit à un système sans heurts. Beaucoup estiment que nous en sommes presque là. Même les investisseurs légendaires comme Warren Buffett, explique-t-on, ne font pas vraiment mieux que le marché. Dans un article récent, Buffett's Alpha, Andrea Frazzini et David Cabiller de Capital Management et Lars Pedersen de la Copenhague Business School concluent que Buffett ne génère pas d'alpha significativement positif si l'on tient compte de certains facteurs de risque moins connus qui ont pesé lourdement dans son portefeuille. Bon, en gros, le gars avec son crayon et son papier est à peu près du même niveau, quand il est un peu bon quand même, que celui qui est devant son clavier avec 10 000 ordinateurs autour de lui qui réagissent à la nanoseconde. Si cela était vrai, les investisseurs abandonneraient en masse leurs efforts pour débusquer les mauvaises évaluations de prix sur le marché, puisqu'il n'y en aurait pas. Les participants au marché supposeraient de manière rationnelle que tous les prix des actions représentent la vraie valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs, utilisant le taux d'actualisation approprié, et que ces flux de trésorerie reflètent les fondamentaux que tout le monde comprend de la même façon. C'est un peu cafouillé aussi, mais pour le dire de façon très claire...
On pourrait acheter n'importe quoi, n'importe quand, et on serait sûr de payer le bon prix.
Voilà, parfaitement, voilà, comme ça qu'il faut éclairer les choses. Bien. Les décisions des investisseurs divergeraient seulement en raison de différences dans leur situation personnelle. Par exemple, un ingénieur automobile pourrait ne pas acheter des actions automobiles, pourrait même en vendre à découvert en vue de couvrir le risque lié à son propre type particulier de capital humain. En effet, selon un ordinateur analysant le big data, il s'agirait d'une décision optimale. Il y a cependant un problème connu de longue date concernant ces marchés parfaits. Personne ne voudrait dépenser le moindre effort pour comprendre ce que les oscillations des prix signifient pour l'avenir. Il y a 35 ans, dans leur article classique « On the Impossibility of Informationally Efficient Markets », j'adore ce titre, Sanford Grossman et Joseph Stiglitz, autre prix Nobel, ont présenté ce problème comme un paradoxe. Ah, ça c'est quand l'économie fait de la philo, j'adore. Des marchés parfaitement efficaces nécessitent pour devenir tels l'investissement des milieux bien informés. Mais si les marchés étaient parfaits, ces mêmes milieux y renonceraient. L'énigme de Grossman-Stiglitz semble moins convaincante dans le contexte de la singularité financière si nous pouvons imaginer que les ordinateurs dirigent toutes les décisions d'investissement. Même si l'alpha était extrêmement faible, il représenterait encore suffisamment de profit pour faire perdurer l'action des ordinateurs. Néanmoins, le vrai problème avec cette vision de la singularité financière n'est pas l'énigme de Grossman-Stiglitz. C'est le fait que les marchés du monde réel en sont extrêmement éloignés. Les passionnés d'informatique sont excités par des choses comme la blockchain utilisée par Bitcoin, dont la couverture est faite par un site web éducatif appelé Singularity University, au sein d'une section répondant au titre spectaculaire de Exponential Finance. Mais le monde financier des futurologues ne ressemble pas au monde financier d'aujourd'hui. Après tout, la singularité financière impliquerait que tous les prix soient fondés sur des choses telles que les bénéfices futurs des sociétés projetés de façon optimale et la corrélation des profits avec les innovations technologiques et les changements démographiques de long terme attendus. Or, les milieux de la finance ne parlent presque jamais en ces termes éthérés. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas penser au plongeon récent du marché boursier chinois. Revenons un peu sur Terre. Les médias décrivent des hordes de gens émotifs, négociant sur base d'intuitions et de superstitions. Là, voilà la réalité de la bourse. Cela ressemble beaucoup plus à la réalité que tous les discours annonçant une singularité financière imminente. Les marchés semblent être entraînés par des histoires, comme je l'explique dans mon livre « Exubérance irrationnelle ». On ne dit pas l'éditeur, mais essayez de le lire si vous le trouvez. Il y a des histoires de nouvelles grandes ères et d'autres de dépressions se profilant à l'horizon. Il y a des histoires fondamentales à propos des changements technologiques et de la diminution des ressources. Et il y a des histoires au sujet de la politique et de conspirations bizarres. Personne ne sait si ces histoires sont vraies, mais elles développent une vie propre. Parfois, elles deviennent virales. Quand on a une conversation de cœur à cœur avec beaucoup de gens apparemment rationnels, il se révèle avoir de folles théories. Ces personnes influencent les marchés parce que tous les autres investisseurs doivent compter avec eux et leur folie ne disparaîtra pas de sitôt. L'idée de la singularité financière peut sembler inspirante, mais elle est pas moins illusoire que l'utopie rationnelle qui a inspiré des générations de planificateurs centraux. Le jugement humain, bon et mauvais, déterminera les décisions d'investissement et les résultats des marchés financiers pour le reste de nos vies et au-delà.
Et sans ça, où serait le plaisir, on se le demande.
Je dois...
L'homme autonome de Damien Robitaille. Et ça nous amène à notre dernier sujet de cette émission. On s'intéresse aux négociateurs en bourse, qu'on appelle les traders. Qu'est-ce qu'un trader, me direz-vous? Bien, je vais vous faire des parallèles faciles. Dans un Lucky Luke, le trader, c'est le vautour. Dans un soir de tempête de neige, le trader, c'est la dépanneuse stationnée sur le terre-plein. Dans un baptême, c'est un croque-mort. Dans un mariage, c'est un avocat. C'est ça, un trader. Voilà. Alors, Richard Dufour s'est intéressé donc à ce métier dans son texte du 25 août, « Journée de rêve pour les traders ». Vous allez voir. Les négociateurs boursiers attendaient un moment de panique comme celui-là depuis longtemps. Et il fallait être prêt à agir à l'ouverture des marchés. Deux traders professionnels, Voyku Valentir du groupe Cavaliero et Michael Dufresne, négociateur indépendant, ont raconté à la presse comment ils ont vécu la séance d'hier. Hier étant lundi, lundi étant le jour où la bourse chinoise a fait chuter le trébucher le marché. Voilà. Quand j'ai vu ce qui se passait 2 heures avant l'ouverture, mon travail a été de fixer les bons prix pour mes ordres d'achat, laisse savoir Michael Dufresne, qui exerce le métier depuis une dizaine d'années. Souvent, une accélération de la baisse en début de journée est un bon indicateur, explique Voyku Valentir. C'est souvent un signe de capitulation et c'est là que tu dois te présenter pour acheter. Par expérience, des marchés qui ouvrent aussi bas rebondissent toujours la journée même, ajoute Michael Dufresne. C'était clairement de la panique. Il n'y avait pas d'autres explications et pas d'autre chose à faire non plus que d'acheter dès l'ouverture des actions au meilleur prix possible pour ensuite les revendre rapidement. C'est le genre de journée où tu peux faire plusieurs milliers de dollars, mais tu dois connaître tes titres, indique Voyku Valentir. En mi-journée, Michael Dufresne avait déjà reçu plusieurs textos et courriels de collègues traders qui disaient avoir eu leur meilleure journée à vie. La plupart des traders avaient la même stratégie lundi matin, et c'était d'acheter à l'ouverture sans se poser vraiment de questions, à part savoir à quel prix placer nos ordres d'achat. On pouvait aussi vendre à découvert des titres qui n'avaient pas baissé beaucoup à l'ouverture. Pour un trader, c'est le genre de journée que tu attends toute l'année. Tu veux voir de la panique parce que ça crée des opportunités. Les ordres stop placés par les petits investisseurs et certains fonds créent des opportunités en or. La panique est toujours le pire conseiller pour un investisseur. Les gens vendent à n'importe quel prix. « Je prends des risques calculés », explique Michael Dufresne. « Tout ce que je fais, c'est utiliser mon gros bon sens. » Il n'y avait pas d'événements tragiques à rapporter. Il n'y avait encore que des vieilles histoires, comme le ralentissement en Chine. « Du moment qu'il n'y a rien de particulier, je sais que je peux acheter à un prix plus bas, en affichant une confiance assez élevée. » On vient de passer une autre saison de résultats trimestriels. Les compagnies ont fait de l'argent au dernier trimestre, en font depuis des années. Elles montrent encore de la croissance. Il n'y a pas de raison qu'elle baisse de 10 ou 20 % subitement. Il fallait placer des ordres sur des titres de qualité à l'ouverture ou sur des titres peu liquides afin de profiter de la position dans laquelle pouvaient se trouver des investisseurs qui devaient absolument vendre suite à un appel de marge, dit Voyku Valentir. D'autres traders pouvaient simplement investir dans des contrats à terme sur les indices ou des titres qui répliquent les indices en attente que la tempête passe. Comme on dit dans le jargon, on place des « stupid bids », des ordres à des prix très très bas. Si quelqu'un doit absolument liquider ses positions, mon ordre d'achat sera là. C'est un peu comme aller à la pêche. Tu envoies une ligne morte et tu attends qu'un poisson passe. Pour établir le prix des ordres d'achat, je surveille les normales quotidiennes d'un titre pour voir combien il peut perdre lorsque, par exemple, le marché recule de 100 points, dit Michael Dufresne. Et il faut voir à quel point un titre réagit anormalement. Quand les titres bougent autant, les gens perdent parfois la notion des prix. Comme traders, tu regardes davantage les cents que les dollars, et c'est là que tu peux faire des erreurs. Des erreurs, il en arrive beaucoup dans ces moments-là. Les prix bougent tellement que tu perds tes références dans le feu de l'action, quand tu suis plusieurs titres en même temps. Et ça se passe tellement vite que je n'ai pas pu profiter de tout ce dont j'aurais aimé profiter. Pour ceux qui ont tendance à accuser les traders de tous les maux, Michael Dufresne tient à souligner qu'ils agissent davantage comme des agents de stabilisation des prix. Le trader va acheter quand personne d'autre ne veut acheter et vendre quand il juge le marché relativement juste ou surévalué. La somme de nos actions est nulle, c'est-à-dire que le plus souvent possible, nous essayons de n'avoir aucune position en fin de journée, c'est-à-dire d'avoir tout vendu ce qu'ils ont acheté. Mon objectif était de faire un peu d'argent rapidement en attendant que le marché se stabilise et que la raison semble vouloir revenir. C'est réalisable à cause des machines qui exécutent automatiquement des ordres stop sans limite. De la façon dont le marché a réagi lundi, hier matin donc, avant hier matin, oui. Il y a encore des gens qui font ça. Eh bien voilà, c'était le fonctionnement d'un trader. Si vous avez perdu beaucoup d'argent lundi, vous savez maintenant où il est passé. Allez, parlons pétrole un peu. Pétrole, en fait, pas pétrole, mais essence. On oublie souvent, ce ne sont pas les mêmes marchés. Il y a le marché du pétrole, il y a le marché de l'essence. Or, vous le voyez, le pétrole atteint le fond du baril, c'est le cas de le dire. L'essence, elle, pourquoi elle ne baisse pas? Est-ce que c'est normal? Eh bien, sachez que les grands groupes pétroliers qui opèrent à la fois des champs de pétrole et des raffineries ont décidé, comme ça, d'augmenter leur marge de raffinage au passage pour maintenir le volume de leurs profits. C'est un des cas où une industrie très intégrée, finalement, opprime le consommateur. Donc, vous payez plus d'essence pour être sûr que les actionnaires d'Esso puissent continuer à rouler en bagnole plus grosse.
Après cette belle analyse macroéconomique, un petit point beaucoup plus terre-à-terre. Vous vous souvenez de la chanson d'Henri Salvador, « Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver ». Eh bien, les scientifiques sont tout à fait d'accord avec ça, puisqu'une étude très, très sérieuse a révélé que quand on travaille plus de 40 heures par semaine, on augmente de façon considérable ses risques d'accident vasculaire cérébral.
Et Tesla, tiens, je parlais d'essence, est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, on peut s'en passer, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de solution magique. Si vous achetez une Tesla, le modèle S, mettons, qui se vend entre 80 et 100 000 $ donc on ne s'attend pas à ce que vous soyez radin, et Tesla ne l'est pas non plus, puisque Tesla vous offre des recharges à vie si vous vous déplacez en Amérique. Or, problème, on a découvert que certains de ces propriétaires qui ont les moyens de se payer une bagnole qui vaut un prix hallucinant, eh bien, sont trop radins pour la charger à la maison. Résultat, ils squattent les endroits de recharge offerts par le fabricant Tesla, et ça fait en sorte que la compagnie a écrit à ses usagers de ne pas abuser du système. Et du coup, les consommateurs sont fâchés. Bref, il y a de l'eau dans l'électricité.
Non, ça, c'est vraiment embêtant. Alors, pour rester dans le champ du pétrole, si je puis employer cette expression un petit peu audacieuse, eh bien, figurez-vous que la dégringolade des prix du brut et les perspectives négatives qui entourent pas mal d'indicateurs économiques suscitent des inquiétudes à l'endroit des grandes banques canadiennes. Je disais tout à l'heure que c'était probablement un des secteurs bancaires les plus sûrs du monde, et c'est tout à fait vrai. Mais les résultats du troisième trimestre qui vont être dévoilés la semaine prochaine sont pas terribles. On imagine que la situation économique actuelle pourrait commencer à peser sur les résultats de nos chères banques.
Initiative intéressante, puisque le 21 septembre prochain, c'est la Journée internationale de la paix, eh bien, sachez que ça rejoint les rivalités économiques les plus sévères. En effet, Burger King a publié dans les journaux de New York une annonce offrant à McDonald's le hamburger de l'amitié. Ce qu'on veut, c'est ouvrir un restaurant où serait offert le Mac Whopper, c'est-à-dire où des employés de Burger King et de McDonald's travailleraient ensemble à développer le hamburger qui ferait la synthèse de leurs deux produits. McDonald's a répondu qu'on avait éventuellement des projets plus ambitieux et qu'on ne passerait pas par la voie des journaux pour les faire connaître à Burger King.
Et est-ce que Pepsi et Coca-Cola vont aussi s'associer pour expliquer que le sucre, ça ne fait pas grossir?
N'exagérons rien.
Ah bon, d'accord. Tiens, on n'a pas parlé d'Uber aujourd'hui et de Airbnb, mais on a eu tort parce que ça bouge au Québec concernant ces deux nouvelles formes de l'économie qui évoluent. Eh bien, il y a des problèmes, évidemment, légaux, fiscaux et politiques ici comme ailleurs. Et on se demande si le Québec, elle est saluée dans toute la presse internationale, n'a pas une longueur d'avance, puisisqu'il y a des évolutions, il y aura une loi pour légaliser à la fois le service du taxi et l'hébergement. On attend de voir son contenu.
Une bonne et une mauvaise nouvelle en provenance d'un pays dont on n'a presque pas parlé cette semaine, la Chine. Alors, commençons par la mauvaise nouvelle. Le charbon chinois est de mauvaise qualité. C'est un piètre combustible. Voilà, on l'a dit. Les Chinois ne l'admettront éventuellement pas. La bonne nouvelle, c'est que puisque ce charbon-là est de mauvaise qualité, il produit probablement moins de gaz à effet de serre en étant consommé, ce qui fait en sorte que les émissions de gaz du pays pourraient être surévaluées de 14 %, ce qui n'est pas rien quand on compare à la taille de l'économie chinoise.
Vous aurez bientôt, en faisant vos courses, 5 couleurs pour y voir plus clair sur les produits alimentaires. On attendait ça depuis un certain temps. On va enfin savoir quelle est la quantité énorme de sucre qu'on ingurgite, énorme de sel qu'on ne devrait pas manger, épouvantable de graisse qui devrait disparaître.
Et voilà, nous vous avons présenté cette édition du 27 août de Kiosque Magazine Économie et Emploi. On remercie Mathieu Tessier à la mise en onde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au plaisir!